Main basse sur les terres du Mali. Une émission de Radio Zinzine. Le Forum alternatif mondial de l'eau, qui a eu lieu du 14 au 17 mars 2012 à Marseille, a réuni plusieurs milliers de personnes venant de tous les continents. Elles ont raconté les innombrables luttes contre la privatisation de l'eau, contre des barrages, des industries et mines polluantes, des luttes pour l'accès à l'eau potable. Il est bien connu que c'est le secteur agricole qui consomme de loin le plus d'eau. C'est pourquoi la question de l'eau est fortement liée à celle de la terre. L'accaparement de millions d'hectares de terre à travers la planète a comme conséquence l'accaparement des ressources en eau. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons rencontré Charlotte Zama et Chantal Jacovetti qui sont venus du Mali, ainsi que René Velvé de l'association internationale Grain. Il faut rappeler que ces entretiens ont été réalisés avant le coup d'État du 21 mars et l'escalade du conflit armé dans le nord du pays. Écoutons d'abord Chantal Jacovetti que nous avons retrouvée à Marseille. Nous l'avons déjà rencontrée à l'époque où elle était paysanne et responsable de la Confédération paysanne du Languedoc-Roussillon.
Ça fait un an que j'y suis. Je suis là-bas pour accompagner la Via Campesina sur la problématique de l'accaparement des terres au niveau international. Et cette problématique a été déléguée à la Coordination nationale des organisations paysannes qui est membre de la Via Campesina, qui est au Mali. Et je suis donc chargée de faire un point, de mobiliser, de sensibiliser et de surtout espérer gagner quelque chose face aux accapareurs de terres.
Donc, je m'appelle Charlotte Zama. Je suis membre d'un syndicat des exploitants agricoles de l'OVI du Niger. Donc, à travers ce syndicat, maintenant, j'ai eu l'occasion de venir participer à ce forum alternatif sur l'eau. J'ai été par l'intermédiaire de Via Campesina, qui est basée à mon organisation fêtière, qui s'appelle la CNOP, la Coordination nationale des organisations paysans au Mali. Donc, je suis dans la région de Ségou, donc dans la zone office du Niger, qui est une zone qui a été aménagée et irriguée par l'État français à l'époque, qui couvre actuellement 6 zones.
C'est un périmètre d'un million d'hectares potentiellement irrigables, dont le premier aménagement a été fait par nous, les colons français, en 1932, avec comme projet d'irriguer 900 000 hectares en coton pour approvisionner nos usines textiles pour ne plus acheter en Amérique et faire du riz parce qu'on était en crise alimentaire ici. Et aux indépendances en 60, quand l'État malien a hérité de ces espaces-là, ils ont transformé cet espace-là en titre foncier privé de l'État. Et quand ils l'ont reçu en héritage, il n'y avait que 48 000 hectares d'aménagés sur les 900 000 hectares de prévu. Et au jour d'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, on n'en est même pas à 100 000 hectares d'aménagés.
L'Office du Niger est basé sur le riz et puis le maraîcher.
C'est parmi les régions les plus riches agricoles du Mali.
Bon, nous, on appelle même la zone Office du Niger grenier de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.
Comment ça se passe actuellement, la propriété des terres? Est-ce que c'est encore des propriétés des villageois? Est-ce qu'il y a des grandes entreprises ou il y a quoi?
Bon, concernant le problème de foncier chez nous, nous, les paysans qui sont dans la zone de l'Office du Niger, nous sommes en location annuelle avec le gouvernement, avec l'Office du Niger. Le contrat qui nous lie, ça, c'est le contrat de la redevance. Chaque année, tu dois payer ta redevance. Et après le 31 mars de chaque année, celui qui n'a pas payé sa redevance, on te retire ton champ, même si tu as vécu sur ça pendant des centaines d'années. Donc la terre maintenant, nous les pauvres paysans, on n'a pas un titre qui définit pour nous faire savoir que ça nous appartient. C'est quoi on voit maintenant à la dernière minute? Et on a vu maintenant que l'Office du Niger maintenant est en train de brader les terres en donnant maintenant aux agrobusiness, aux pays étrangers, aux pays voisins, donc avec des titres.
Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour le Mali, ce système de devoir renouveler chaque année une sorte de location, enfin de l'accès aux terres, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres régions au Mali?
comme la zone office du Niger est la seule zone qui a une maîtrise totale en eau, donc par rapport aux autres zones, nous ne sommes pas dans les mêmes contextes. Parce que la zone office du Niger, on a eu l'aménagement des terres avec la maîtrise d'eau totale, et que dans d'autres régions, ils produisent du riz, mais ce n'est pas avec une maîtrise d'eau totale, dont les conditions ne sont pas les mêmes.
Comment il faut imaginer les parcelles? C'est quelle taille vous travaillez par exploitation?
Bon, cela dépend maintenant de la capacité et puis, ou de la chance de tout un chacun, sinon ce n'est pas déterminé. Avant, depuis dans les années 47, d'après nos grands-parents, chaque famille avait droit à 3 hectares de champ de riz. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. C'est le plus riche qui gagne. Donc, si tu as les moyens, tu peux avoir plus que... Même si tu n'as pas beaucoup de charges, tu peux avoir plus que ceux qui ont beaucoup de charges.
Mais si je ne me trompe pas, dans pas mal de régions du Mali, le village, peut-être les anciens ou différents comités, ils peuvent avoir un impact important encore sur la question de comment utiliser la terre. Qui est-ce qui a droit à quelle terre? Il y a encore des terres qui sont, je pense, aussi communales, enfin, qui ne sont pas privées. Finalement, ça n'existe plus dans cette zone de l'Office du Niger.
Bon, la zone de l'Office du Niger, c'est toute une histoire. Parce que les droits coutumiers existent dans la constitution du Mali, mais ce n'est pas respecté. Voilà pourquoi actuellement, vous allez voir, dans la zone office du Niger, les chefs de village ne sont plus considérés, les conseillers du village ne sont plus considérés. Et les maires sont, il y a beaucoup de maires qui sont en complicité avec l'office du Niger. Sinon, les terres appartiennent, toutes les terres qui sont dans la zone appartiennent à l'office du Niger. Il n'y a pas un maire qui peut vendre un centimètre de terre sans l'accord de l'Office du Niger. Donc là maintenant, c'est autre chose par rapport à d'autres régions, sur la gestion des terres. Sinon, dans la constitution malienne, les droits coutumiers sont bien et bel écrits et bien dits. Mais dans la gestion, c'est pas ça.
Depuis quelques années, on commence à parler beaucoup de l'accaparement des terres, c'est-à-dire des très grandes surfaces qui sont soit vendues, soit louées à des gens, comme vous avez dit, de l'étranger. Quand est-ce que ça a commencé au Mali?
Bon, moi je peux dire que ça a commencé très longtemps, mais nous les paysans, on a découvert ça qu'en 2008. Parce que chaque année, bien avant, on voyait les gens qui venaient faire des enquêtes, les topographes qui venaient, les ingénieurs qui venaient. Mais nous, les paysans qui sont résidents là-bas, on ne nous dit pas mot, on ne sait pas qui est qui. Sauf à la dernière minute maintenant, quand ils sont venus pour l'exécution maintenant, que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait ce projet.
Il y a toujours ce potentiel de 1 million d'hectares. Et c'est là-dessus que s'appuie l'Office de Niger et le gouvernement en disant... Nous avons de l'espace, en disant aux investisseurs, venez, nous avons de l'espace, venez faire de l'agriculture industrielle, parce que nos paysans et nos paysannes, évidemment, à leurs yeux, ne valent rien, alors que ce sont eux qui nourrissent le Mali depuis des décennies, et encore aujourd'hui, à plus de 70% ceux qui nourrissent le Mali. Et se pose toute la problématique, puisque les titres fonciers de l'État sont, comme le dit son nom, à l'État, il devrait pouvoir en faire ce qu'il veut. Sauf qu'il y a deux choses que n'a pas fait l'État, c'est que dans le code domanial et foncier, l'État aurait dû reconnaître les droits coutumiers dans les villages qui existaient avant dans cette zone-là, qu'ils n'ont pas fait, à tel point que, et ça a été volontaire, puisqu'aujourd'hui l'État, j'étais encore il n'y a pas longtemps à une conférence, où l'État dit, les gens qui sont dans l'Office de Niger sont installés là illégalement. Et on a un problème juridique, puisque quand on veut attaquer l'État pour qu'ils reconnaissent ses droits coutumiers, il dit ben non, ils n'ont pas fait la démarche de faire reconnaître leurs droits coutumiers. Mais la moindre des choses, c'est que l'État, quand il a hérité ces terres-là, et qu'il savait, lui, en premier, normalement un état de droit, aurait dû sensibiliser tous les villages pour faire les démarches qui étaient inscrites dans la législation pour faire reconnaître les droits. Néanmoins, il y a déjà eu un cas comme ça dans l'Office du Niger où un village a gagné pour faire reconnaître ses droits.
C'est à partir de 2007-2008 qu'on s'est rendu compte.
Mais légalement, ça peut se passer comment? Si vous avez payé votre location en quelque sorte chaque année, en principe, il ne peut pas vous refuser le renouvellement. Ou alors, quand même, il vous expulse.
Bon, les terres non aménagées, les terres là où on cultive des céréales sèches, comme le mil, le haricot, donc C'est sur ces terres maintenant que les multinationales veulent venir s'installer. Donc c'était des zones qui ne faisaient pas partie, même si ça faisait partie de l'office du Niger, qui n'ont pas été aménagées. Donc là maintenant, ces gens-là n'avaient pas un contrat qui les lie à l'office du Niger.
Et donc, jusqu'à présent, il y a déjà des contrats qui ont été terminés, des terres qui ont été soit vendues, soit louées à des pays ou des entreprises étrangères.
Bien sûr. Pour faire ces découvertes maintenant, c'était les Chinois qui sont venus premièrement s'installer. Donc, quand les Chinois sont venus s'installer, ils ont dit qu'ils vont faire la diversité des cultures. Donc, ce qu'on voit à la dernière minute, donc, c'est nous, les paysans, nous, les exploitations familiales, les jeunes, nos enfants qui travaillent pour nous, quittent nos champs pour aller faire le manœuvre chez les Chinois. Donc là, maintenant, ça nous paralyse d'un autre côté. Et puis encore, ces mêmes Chinois se permettent de relouer maintenant ces champs à nous-mêmes, les Maliens, encore. Ce qu'on voit maintenant, il y a la Libye aussi qui est venue. La Libye est venue... On était dans l'enfer, hein, parce que quand la Libye est venue, on a vu des choses qu'on n'a jamais imaginées. Parce qu'ils sont venus sans demander ni quoi à qui que ce soit. Donc, ils sont venus maintenant commencer à casser les maisons des gens, faire quitter les gens et puis commencer leurs travaux. Donc, quand nous, les organisations paysannes, le syndicat, on s'est rendu compte maintenant, on a essayé de mobiliser les gens, de les sensibiliser pour les faire savoir de ne pas quitter leur maison. Donc maintenant, avec le parti au pouvoir maintenant, eux aussi, ils ont contourné de l'autre côté pour aller négocier avec ces mêmes gens, les victimes maintenant, et puis prendre un peu de l'argent avec le gouvernement office, donc pour pouvoir donner ça aux pauvres paysans tout en leur disant que c'est un dédommagement. Et puis ils sont partis chercher un autre terrain d'un bas-fond pour les faire loger là-bas, d'aller construire là-bas. Et pourtant, l'argent qu'on les a donné, l'argent ne pouvait pas subir à la construction de l'ancienne maison que la personne a construite. Donc là maintenant, les gens ont été corrompus de cette façon. Donc pour les faire quitter leur maison et puis aller les installer. Ça c'est au niveau de mon village parce que nous on a beaucoup et bien insisté. Bon, les villages voisins maintenant, on est en train de travailler avec ces gens-là. Là maintenant, ce n'est pas les maisons, hein. Ce sont les jardins. À Kolongo, c'était les maisons, des jardins, des cimetières. Bon, les villages qui allongent toujours le canal qui est à 40 km, il y a des gens maintenant qui n'ont même pas un mètre carré pour cultiver et puis avoir à manger. Tout un village, des villages comme ça. Donc, avec ces villages, maintenant, on continue toujours à travailler là-dessus pour dire seulement non, ce projet-là, on ne veut pas. Parce que tout un village qui n'a pas à manger, qu'est-ce qu'ils vont faire actuellement? Ils sont là, ils vont demander des morceaux de terre à des voisins, à des cousins, qui ne peuvent pas subir leur foyer.
Donc pour resituer, le cas de Maliba qu'a cité Charlotte, qui concerne 100 000 hectares, il y a potentiellement aujourd'hui, je dis potentiellement parce qu'on n'a jamais les informations, parce que tout est opaque, mais il y aurait 800 000 hectares en transaction. Et je rappelle qu'en ce moment, il n'y a que 100 000 hectares d'aménagés. Et sur les 100 000 hectares vivent environ 50 000 exploitations agricoles familiales, avec environ une moyenne de 15 à 20 membres par famille. Donc il y a du monde. Et c'est la zone qui produit, il n'y a pas de misère sur cette zone quand les gens ils ont accès à la terre. Le problème, c'est que la démographie a grandi et l'aménagement des terres n'a pas suivi. Donc dans le temps, chaque famille se retrouve avec de moins en moins d'hectares. La deuxième chose, c'est que l'Office du Niger on a des papiers écrits de convention. Ils donnent des terres à des investisseurs, soit des investisseurs un peu prête-nom, parce que l'État est bien mouillé aussi en tant que personne individuelle dans tous les montages financiers d'investisseurs. Et ils leur font des contrats sur ces zones où il faut investir pour construire des canaux, etc. Mais quand les investisseurs ont ce contrat, c'est vraiment un papier magique dans le sens où vous allez à une banque et vous avez droit de lever des hypothèques, de demander de l'argent, etc. Et on peut supposer qu'avec cet argent, ils achètent les bulldozers qui vont, eux, arriver dans les zones où il y a les paysans et les paysannes en disant « nous, on va venir là parce que là, on n'a pas besoin d'investir ». Les investissements sont faits, l'irrigation est là, les champs sont fûts. Ils ont la fumure depuis des années, etc. Et ils arrivent avec leur bulldozer, avec les forces de police, donc avec l'aval de l'État, avec l'aval de l'Office du Niger. Et ils disent aux paysans, ces terres-là nous appartiennent, vous partez. Et eux, leur argument, c'est de dire, ce sont les terres d'État, donc on fait ce qu'on veut. Mais ils n'ont pas respecté non plus le protocole juridique, il fallait qu'ils respectent. On ne vient pas comme ça impunément sur des terres où il y a des générations de paysans et de paysannes qui travaillent là. Mais ils arrivent, les paysans et les paysannes étaient en train de récolter dans leurs champs. Ils n'ont même pas, par exemple, pu finir la récolte. Quand une femme a vu, elle faisait du beurre de karité, à partir de l'arbre de karité, elle faisait une activité commerciale liée au beurre de karité. Elle a juste dit non, ne coupez pas cet arbre. Elle a été bastonnée, elle était enceinte, elle a perdu son bébé. Il y a eu 3 cas comme ça. Il y a des gens qui ont été en prison. On a installé des postes de police dans les villages où aujourd'hui les Modibo Keïta, les entreprises comme Sosumar qui font de la canne à sucre, et on a installé des postes de police pour mettre les gens sous pression. Alors avant d'en arriver là, la première chose que fait un investisseur quand même, il a au moins une démarche déontologique d'investisseur si j'ose dire, c'est qu'il essaye d'acheter les gens, il vient pour faire de la corruption. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des gens qui cèdent un peu de leur terre contre de l'argent. Donc l'investisseur vient, s'installe en disant « là, j'ai l'autorisation par la corruption, mais j'ai une autorisation des gens qui avaient le droit d'usage sur les terres ». Dans ce cas-là, on respecte le droit coutumier, et l'État ne dit rien, hein, puisqu'ils disent « ben non, c'est le chef de village ou le maire qui a donné ». Mais ça ne concerne pas toutes les terres, évidemment, puisque c'est des morceaux de terre à des individus. Donc l'investisseur s'installe là. Quand il a fini de... Alors, il faut voir, hein, c'est... Après, on arrive à la bosse. On était dans un paysage d'arbres, de biodiversité, etc. Là, on arrive des hectares à nu. Et quand il a fini d'utiliser cet espace qu'il a négocié par la corruption, eh bien, il s'étale aux autres champs. Et c'est là qu'arrivent les conflits. C'est les autres qui disent, nous, on n'a pas ni cédé à la corruption et ce sont nos champs qu'on veut travailler dessus. Et c'est là que l'investisseur il dit, non, ce sont des terres d'État. Donc, comme l'État fait lui-même, il agit à toute impunité, donc il suffit d'appeler le préfet ou les autorités locales, ils envoient la police et on vire tout le monde. Voilà la situation actuelle. Donc, ça concerne des investisseurs qui sont là, pas pour faire de l'alimentation pour le Mali. Ben, il y a à peu près un quart des projets, c'est pour faire des agrocarburants, pour fournir nos voitures, en Europe ou en Amérique. Il y a une partie des projets, ce sont des États comme le cas de Malibia, qui eux, c'était pour assurer l'approvisionnement alimentaire dans leur pays. Et puis le reste, c'est surtout des projets pour aller sur les marchés internationaux, pour faire du riz.
Avec des capitaux aux étrangers ?
Alors il y a par exemple, il y a le cas de Sosumar qui est un holding avec 40% de capitaux d'Afrique du Sud, qui est déjà une des grosses boîtes d'Afrique du Sud qui fait de la canne à sucre. Je crois que c'est au Kenya et au Zimbabwe, mais bon, je ne vais pas... Enfin, qui est déjà implanté dans d'autres pays africains. Et dedans, il y a les capitaux donc étrangers, il y a des fonds de pension, et puis il y a des privés maliens, souvent entre 5, 10, 20% des parts, dont on sait... personne n'a vu par écrit à ce jour, en tout cas dans nos réseaux. Mais la rumeur affirme franchement que même les chefs d'État est impliqué dedans, ou sa famille, ou les élites gouvernementales.
Est-ce qu'il y a des cas d'accaparement des terres en dehors de cet office du Niger, ou est-ce que c'est vraiment concentré là-bas ?
Alors, pour le moment, c'est-à-dire que dans l'office du Niger, c'est là où on a le plus d'infos, en sachant qu'on doit avoir que 10% d'informations. Après, on sait qu'il y a des accaparements qui se font, tout dans le Mali. Mais le Mali, c'est 2 fois et demi grand comme la France. Internet n'est pas partout, les moyens de communication sont très compliqués. Donc on a beaucoup plus de mal à avoir les informations là-dessus. Ça coûte cher d'envoyer des gens, faire des enquêtes, etc. Donc on a la recherche aussi de moyens là-dessus. Mais l'accaparement se fait dans toutes les zones où il y a de l'eau et de la terre. Et pour en venir au problème de l'eau, puisqu'on est au forum de l'eau, c'est vraiment, on n'a pas été prendre de la terre. D'ailleurs, même la terre qui n'est pas bonne, qu'on a donnée en baux ou avec des baux aux investisseurs, ils n'en veulent pas. Ils viennent vraiment prendre les terres qui étaient déjà exploitées naturellement par les gens parce qu'il y avait de l'eau. Donc, quand on dit accaparement de terre, il y a toujours accaparement d'eau avec. On ne fait pas l'un sans l'autre. Et en plus, si on reprend l'exemple de Sozumar, qui est une entreprise de canne à sucre, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont fait une pépinière seulement sur 170 hectares, puisqu'ils ont un projet de mettre, je crois, plus de 40 000 hectares en canne à sucre. Rien qu'autour de la pépinière, les paysans et les paysannes n'ont plus d'eau en ce moment. Faire pousser de la canne à sucre, ça consomme 3 fois plus d'eau que de faire des cultures maraîchères. Et que la canne à sucre consomme 1,5 fois plus d'eau que de faire du riz, qui sont les aliments de base quand même des populations. Et que dans les contrats, il est spécifié que les investisseurs ont priorité sur l'eau et ils payent jusqu'à 100 fois moins l'eau à l'hectare.
Nous, on ne nous a rien dit. Hein. On ne sait pas ce qu'on va faire là-dedans. C'est pour faire de la culture, c'est pour faire de l'élevage, c'est pour faire de quoi? Jusqu'à nos jours, nous, les paysans, on n'a pas eu d'informations. Tout simplement, ce qu'on a eu comme information de notre organisation fêtière, qui a la coordination nationale des organisations paysans, on a vu maintenant qu'il y avait une convention qui liait le gouvernement malien avec la Libye. Dans cette convention maintenant, donc il y a des articles qui sont bien définis. D'une part, on dit priorité à la Libye. Donc quand la Libye sera dans la besoin de l'eau, nous qui sommes là-bas depuis la création de l'office, nous on n'aura plus de l'eau tant que la Libye ne sera satisfaite.
Et maintenant que les villageois ils commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe, je veux dire, il doit y en avoir une colère énorme contre le gouvernement qui brade tout ça et qui laisse expulser des gens.
À travers ça, nous, on a organisé un forum en 2010, le 20 novembre 2010, à Kolongo, dans mon village. Parce que le projet a démarré dans mon village à quelques 300 mètres de ma maison. Donc là, maintenant, on a sensibilisé tous les villages qui sont touchés par ce projet. On a sensibilisé tous les autres villages qui ne sont même pas de la région. Là où partout dans la région, nous nous sommes présentés, les AOPP. Les associations des organisations professionnelles paysans, on est représentés partout dans le Mali. Donc on a sensibilisé tous ces gens-là maintenant et puis évoquer ce forum-là. À travers ce forum maintenant, on a invité beaucoup de partenaires avec l'appui de la Via Campesina. Donc là maintenant, on a eu des partenaires d'extérieur ou du Mali et puis on a invité le gouvernement. Donc c'est à travers ça maintenant qu'on les a dit clairement, ce qui se passe actuellement dans le domaine du foncier, nous les paysans, on n'est pas d'accord.
Nous sommes toujours à Marseille. Charlotte Zama et Chantal Jacovetti sont en train de nous parler du terrible drame de l'accaparement des terres au Mali. Mais il s'agit bien sûr d'un forum alternatif mondial de l'eau. Donc, quels sont les principaux problèmes liés à l'eau? Charlotte Zama.
Bon, là maintenant, ce que j'ai à dire à travers ce forum alternatif, parce que nous, on n'arrive pas à comprendre que le Mali a bénéficié d'un bras du fleuve Niger. Donc depuis dans le temps, l'État français nous a aidé à faire des travaux d'aménagement. Donc, et que chaque année, on veut augmenter le prix de l'eau de la redevance. Parce que nous, les syndicats, des fois, on se dit que non, ce n'est pas possible. S'il faut que chaque année, on augmente le prix et qu'on ne sait pas, c'est la même quantité qu'on utilise chaque année et qu'on nous dit maintenant d'augmenter toujours la redevance. Et pourtant, il y a d'autre part aussi, nous les femmes qui résident dans les zones de l'office du Niger, nous utilisons l'eau perdue des champs. L'eau perdue après l'utilisation. C'est même eau perdue après l'utilisation. Là, nous, on se débrouille, on se décarcasse pour aller prendre l'eau à la main avec des gourdes pour venir arroser nos plantes maraîchères. Avec tout ça, l'office se permet pour venir nous dire encore de payer la redevance de cette même eau-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est déjà perdu, qui est en cours de partir. Ça, c'est une chose aussi que nous, les femmes, nous ne comprenons pas.
Mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes?
Bon, quant à moi, il y a d'autres problèmes que les gens ne voient pas. Hein. C'est le problème de quoi? C'est le problème sur l'eau potable. Parce que nous utilisons beaucoup de produits chimiques. Des milliers de tonnes par an.
Dans l'agriculture?
Dans l'agriculture du riz. Bon. Si on voit maintenant comment la pénétration de ces produits chimiques, là où ça va, c'est là aussi que nous puisons l'eau pour boire. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision. Moi, à ma personne, je vois ça. Je peux prendre l'exemple aussi sur le Soukala, la société sucrière qui est à Sribala. C'est une société aussi qui a été privatisée et que les Chinois gèrent ça actuellement. Un jour, j'ai vu dans un journal de Ségou, là où on appelle le Ségouvien. Le Ségouvien, maintenant, j'ai vu des photos dedans, là où tous les enfants de ce village ont les incives rouges avec les dents rouges. C'est dans le journal que j'ai vu. Et qu'on disait que ça provenait de l'eau que le village est en train d'utiliser. Vous voyez tout ce que ça amène. Moi, je me suis dit, ça peut jouer totalement sur la santé de l'homme. Normalement, c'est l'office du Niger qui devait prendre tout ça en compte. Mais non, ce n'est pas leur cas. Hein. Ils sont là assis seulement. Ils attendent que quelqu'un ne peut pas payer sa redevance et qu'il retire le champ, il donne ça à un parent ou bien à un proche.
J'ai entendu que vous avez installé une radio de paysans, donc j'aimerais bien que vous parliez un peu de ça.
Bon, la radio des paysans, je peux dire c'est un radio, c'est un monsieur qui est venu de Ségou comme ça. Il est venu s'installer chez nous et puis à travers lui maintenant, il a installé la radio Famaketa. Donc cette radio maintenant a des liens plus proches avec nous les paysans. À travers ça maintenant, même pas une année, deux ans, il y a l'office du Niger aussi qui vient installer une autre radio à côté. Donc on appelle la radio de l'office du Niger. Donc là maintenant, il y a deux radios qui sont là, qui sont en train de faire la concurrence. Donc nous préférons la radio Famaketa, qui est une radio pour nous les paysans, plus que l'autre radio.
Et ça couvre un peu tout l'office du Niger, toute la région ou...
ça couvre la zone là où je suis, la zone de Massina. Dans d'autres zones aussi, il y a des mêmes radios comme ça qui couvrent, qui parlent uniquement que des problèmes des paysans. Maintenant, il faudra que nous, les paysans, on se donne la main, que ce soit les paysans du sud ou bien du nord, parce que nous sommes dans le même, je peux dire, si vous me le permettez, nous sommes dans une voiture sans volant, conduite par un aveugle et qui nous amène envers une tombe. Hein.
Eh oui, il y a beaucoup de virages devant nous.
Oui, c'est ça. Et donc là, maintenant, on n'a qu'à se donner la main et puis se faire la lutte ensemble. Sinon, tout le monde entier est envahi sur l'accaparement des terres.
Oui. Mais j'ai quand même l'impression que le Mali, il y avait le forum Niéléni. Je ne sais pas comment ça se passe dans les pays voisins, Burkina Faso, Côte d'Ivoire ou autres. Mais il semble que le Mali joue un rôle très important actuellement dans l'Ouest d'Afrique pour essayer de créer un peu un vieux campesina africain, etc.
Mais tout à fait normal. Cela vient de la compétence de tout un chacun. Comme l'organisation, la CENOPE est membre du ROPA. Le réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je peux dire, c'est le président de la CENOPE est le secrétaire à l'extérieur du ROPA. Donc là maintenant, nous avons accès facile à toutes les informations, à tous les mouvements qui se passent, je peux dire, dans la sous-région, même dans tout le monde entier, à travers le Via Campesina.
Mais il y a eu des cas, en tout cas par rapport à l'accaparement des terres, je pense à Madagascar, où il y avait un énorme projet et c'est devenu public. Et après, il y avait un tel scandale, que c'était avec la Corée du Sud, qu'ils ont abandonné finalement ce projet-là d'accaparement des terres. Ça a pu être arrêté, quoi. Est-ce qu'au Mali, avec la mobilisation que vous faites, vous avez pu stopper des projets d'accaparement des terres ou pas encore?
Bon, là maintenant, peut-être le cas de la Libye sera une première pour nous, parce que la Libye a eu son coup d'état, son choc. Donc jusqu'à nos jours maintenant, nous on ne sait plus où est-ce que le projet va continuer. Sinon, si le président n'était pas mort, maintenant ils allaient être dans les premières phases des travaux pour l'aménagement de ces terres. Parce qu'ils avaient la première tranche était de 25 000 hectares à aménager. Donc avec le problème maintenant, ça s'est arrêté. Donc sur l'accaparement des terres aussi, j'ai oublié un sujet qui parle des Américains. Parce que les Américains aussi sont venus, Million Challenge, tout en disant ils vont nous aider à aménager les terres, nous donner, nous offrir, et puis avec des titres fonciers. C'est un projet américain qui intervient dans les pays africains. Donc là maintenant, ils sont venus, ils se sont installés, ils ont aménagé, ils ont fait tout. Donc ils ont lancé leur appel d'offres à la population, aux paysans. Parce qu'ils ont bien et bel dit, tous ceux ou bien toutes celles qui n'existent pas dans les 6 zones de l'office du Niger ne doivent pas postuler. Là, c'est pour nous faire croire maintenant qu'ils sont venus purement pour nous, les paysans. C'est pour nous faire croire comme ça. Donc, après maintenant, nous tous, même moi, j'ai postulé, j'ai passé au départ, mais c'est au dépouillement maintenant que je n'ai pas passé. Parce qu'il y avait au moins plus de 7000 et quelques candidats, donc 3300 à passer, et qu'ils avaient besoin que 153. Donc, lors du dépouillement maintenant, je n'ai pas eu la chance de passer. Même si j'avais passé, j'avais dans la tête, moi, étant que responsable d'une organisation, j'ai dans la tête, ils sont venus maintenant, parce que nous, on se plaint tout le temps sur les antennes que le gouvernement est en train de brader nos terres. Donc ça, c'est une autre stratégie maintenant, pour que le gouvernement aussi puisse avoir l'occasion de dire que c'est nous, les paysans même, qui ont bradé nos terres. Parce que pourquoi je dis ça ? Avec un titre foncier, les Américains se permettent de dire encore, si celui qui est dans le besoin financier, tu peux aller faire un prêt à la banque avec ton titre. Donc, un pauvre qui n'a rien, tu as l'habitude maintenant à faire des prêts. Et le jour qu'il ne peut pas rembourser, ce sont eux-mêmes qui vont rembourser et puis prendre les terres et puis toi tu vas aller là.
Mais qu'est-ce qu'ils promettent en fait, les Américains? Ils promettent des titres de propriété?
C'est ce que je dis. Il dit, tu as 5 hectares de titres fonciers, un demi-hectare de maraîcher pour ta concession. Tu peux utiliser les 5 hectares dans la production du riz pendant l'hivernage et puis 1 hectare pour la contre-saison pendant l'été. Et les 0,50 là est destiné seulement que des produits maraîchers.
Les terres appartiennent aux paysans ou aux Américains?
Mais là maintenant, nous on peut dire que la terre appartient aux Américains et non même pas à l'État malien. Hein. Parce que ce sont eux qui sont venus, ils ont investi, ils sont là-bas, ils ont leur base là-bas, ils font tout là-bas. Donc ce sont eux aussi qui ont lancé leur appel d'offres sans l'implication de l'Office du Niger. Sans l'implication de l'Office du Niger. C'est purement américain là.
Et alors en contrepartie, ils aident avec des machines, des semences ou comment ça se passe?
Voilà pourquoi ils ont dit, celui qui est dans les besoins financiers, tu peux aller faire un prêt à la banque avec ton titre foncier. Mais dans leurs critères de demande, ils ont bien et bel demandé aux gens, si tu as une machine de labour, de décorticage, des choses de batteuse, si tu as des charrettes, ils ont demandé surtout les matériels agricoles. Si tu en as. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils en ont et pourtant ils n'en ont pas. Donc là maintenant, après ces gens-là vont partir s'endetter. Quand ils vont s'endetter maintenant, donc, et qu'ils ne peuvent pas payer, donc ce sont les Américains qui vont aller payer et puis la terre va les revenir. Maintenant, ce n'est pas l'État qui a vendu aux Américains, mais c'est nous les paysans qui avons vendu ça aux Américains. Il y a toutes ces stratégies-là qui sont derrière, quoi.
Alors, c'est le Millennium Challenge et c'est le projet à Latona. Alors, je pense qu'on va rentrer dans le cynisme des investisseurs. C'est-à-dire que tout le Mali, il n'y a pas de privatisation de terres jusqu'à maintenant. Comme beaucoup de pays d'Afrique, c'est basé sur le droit d'usage, les droits coutumiers, de transmission, etc. Et là, pour la première fois, avec l'accord du gouvernement, ce sont et l'USAID, et les Américains, et, la fondation Bill Gates, etc., propose aux paysans et aux paysannes d'avoir accès à la propriété de la terre en payant sur 20 ans une somme. Mais nous, on sait, nous, les Européens, que quand on a accès en propriété à la terre, c'est toujours les plus pauvres qui vont perdre leur terre. Et moi, j'en suis persuadée que c'est la première intrusion et que les gens savent déjà que dans 20 ans, même dans 10 ans, ils vont pouvoir investir et acheter des terres à pas cher dans cet endroit. Ils n'auront même plus à se confronter au gouvernement, aux législations, etc., puisqu'ils seront dans la privatisation. Normalement, ils devaient avoir, par exemple, le titre de propriété de leur terre qu'au bout de 20 ans. Il y a eu le premier tirage des personnes qui étaient désignées à avoir ces terres le mois dernier, enfin il y a 15 jours même. Et on leur a déjà donné le titre de propriété en leur disant « Mais vous savez, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez aller vous endetter auprès des banques. »
En fait, les Américains, c'est eux qui achètent ou comment ils peuvent proposer ces terres ?
Non, mais comme beaucoup d'ONG, ça passe par des ONG ou par des projets gouvernementaux, avec des fonds américains, par l'USAID ou par... Là, ça a été pour lever le millénium, les années 2000 à 2050, je crois. Ce sont des fonds américains qui veulent faire soi-disant du développement en donnant accès à la propriété à des gens qui n'ont aucune notion à la propriété. En plus, les critères de sélection ne s'adressent pas aux paysans et aux paysannes, ils s'adressent à des gens qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà un motoculteur, qui ont déjà des moyens de faire fonctionner une grosse ferme. C'est-à-dire que les paysans et paysannes de base, déjà dans la zone, il y en a un sur deux, ils n'ont même pas des bœufs de labour. Alors eux, ils sont exclus. Donc on est en train de transformer, on laisse la place aux investisseurs à grande échelle et aux élites. Parce que les gens qui viennent, ce sont les commerçants, ce qu'on appelle les paysans du dimanche, les commerçants, etc.
Le Mali n'est bien sûr qu'un des nombreux pays touchés par le fléau de l'accaparement des terres, qui est devenu un phénomène planétaire. L'association internationale Grain, basée à Barcelone, mène depuis 20 ans un très grand travail d'enquête et d'information sur de nombreuses questions liées à l'agriculture et elle cherche à soutenir des luttes paysannes. René Velvé travaille pour Grain à partir de Paris, et nous avons pu la rencontrer à Marseille lors du Forum Alternative Mondiale de l'eau.
Puisque Grain a ses pieds un petit peu partout, moi j'étais aux Philippines à l'époque, et je me rappelle que lors de cette crise, à un certain moment, les politiciens, les officiels commençaient à donner des explications. Pourquoi il y a une crise alimentaire, de quoi s'agit-il, etc. Et on n'était pas du tout convaincus de leurs explications. Et on a regardé de plus près de quoi il s'agissait. Et on a vu, par exemple, tout le rôle des multinationales, et beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses par la suite concernant le rôle de la spéculation dans la hausse des prix. Et nous, de notre côté, on voyait en même temps qu'il y avait beaucoup de... carrément des hommes des pays du Golfe qui venaient au Laos et au Vietnam, par exemple, tout près de là où j'habitais, pour prendre des terres agricoles. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? C'est pas normal, de quoi s'agit-il? Et en regardant plus de près, on voyait que commençait à exploser une grande chasse aux terres, la chasse à la terre, ce qu'on appelle actuellement les accaparements de terres. Pourquoi? Parce qu'avec la hausse des prix alimentaires, des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine ou la Corée du Sud, qui sont très fortement dépendants sur le marché mondial pour importer leurs aliments, ils ont créé une nouvelle stratégie d'approvisionnement parce que les pays exportateurs commençaient à fermer leurs frontières à cause de la crise. Et ils se donnaient comme nouvelle stratégie de prendre des terres à l'extérieur, la délocalisation de l'agriculture, pour produire leurs propres aliments ailleurs, parce qu'ils sont en manque de terre ou de l'eau, ils ont des pressions chez eux. Donc toute cette vase diplomatique, un peu partout en Amérique latine, en Afrique, en Asie, des pays qui manquent des aliments mais qui ont beaucoup d'argent, hein, parce que la Chine, les pays du Golfe, ils ont beaucoup d'argent. Donc ça a commencé à se dessiner. Et en même temps, avec l'effondrement des marchés aux États-Unis, le marché immobilier, et ensuite les bourses, etc., les investisseurs commençaient à chercher des terres agricoles aussi, juste pour faire de l'argent. Et ensemble, il y avait une convergence de ces deux mouvements pour créer ce qu'on appelle ce grand phénomène actuel d'accaparement des terres. Et bon, je dis tout ça parce que Green est très occupé avec ça. On a expliqué un petit peu tout ça en 2008. On a sorti un premier dossier là-dessus. Et depuis lors, tout ce qu'on avait dit et vu s'est confirmé par la suite. Et ça devient de plus en plus pire. Donc ça occupe beaucoup de notre temps actuellement.
C'est quelque chose qui a pris quand même une dimension considérable en très peu de temps, non? Je veux dire, ça, on parle vraiment de surface... énorme.
C'est énorme. Malheureusement, on manque beaucoup de chiffres parce que c'est un thème tellement sensible sur le plan politique que aussi bien les investisseurs que les États ne veulent pas trop en parler. Donc les contrats, les accords sont cachés du public et on a vraiment du mal à avoir des chiffres. Et nous, on passe beaucoup de temps à chercher des chiffres pour éclairer le public là-dessus. Mais disons que selon les estimations, entre 90 et 200 millions d'hectares ont été accaparés ces dernières années. C'est entre le Royaume-Uni et toute l'Europe de l'Ouest, en termes de superficie, en termes de grandeur. Et en termes de dollars et d'euros, là aussi c'est énorme. Nous, on a chiffré à un certain moment plus de... On voyait dans les discussions, parce qu'on ne sait pas trop non plus si les accords sont signés, si c'est toujours en discussion, si c'est vraiment effectif ou c'est quelque chose qui va tomber à l'eau d'ici demain. Donc on est vraiment dans l'incertitude. Mais on est dans l'ordre de grandeur de 100 milliards d'euros. C'est des sommes énormes. Et en termes d'acteurs, je disais tout à l'heure, il y a les États, il y a des investisseurs. Mais c'est un mélange entre le public et le privé parce que... Il y a des gouvernements qui aussi ont des intérêts financiers là-dedans. Mais en termes du privé, les fonds de pension et les grands fonds d'investissement jouent un rôle très, très important. Et ça, c'est quelque chose, en Europe, on essaie de mieux cerner de quoi il s'agit en termes de fonds de pension en particulier, parce que c'est la retraite des travailleurs. Donc, si on peut arrêter l'accaparement de terres, pourquoi ne pas commencer avec les fonds de pension, dans certains cas, parce que ça dépend du pays, si c'est public ou privé.
On a même parlé d'universités américaines, surtout, mais qui apparemment mettent beaucoup d'argent dans l'accaparement aussi.
Oui, parce que pour les investisseurs, entre guillemets, en général, ce qui est nouveau avec la terre et l'agriculture, c'est qu'ils se rendent compte... pour eux, c'est des analyses fondamentales, selon eux, que la population est en train de monter, que la terre et l'eau, ce sont des trucs qui... Enfin, c'est limité, c'est pas illimité. Donc, il y a des pressions qui vont grandir. Et déjà, les prix alimentaires sont très hauts, pour des raisons structurelles, c'est pas passager. Donc, ils se rendent compte qu'il y a de l'argent à faire ici, à long terme même. Il y a des spéculateurs qui sont là pour le court terme, ils achètent des terres pour ensuite les vendre plus tard, peut-être dans un an, deux ans, à un prix plus haut. Ça se fait partout. Et ça, c'est grave parce que ça rend la terre inaccessible aussi aux paysans. Mais aussi, il y a des gens comme les fonds de pension qui sont responsables de mettre de l'argent à côté pour 30 ans, pour toute la vie d'un travailleur. Et qui cherchent des trucs à long terme. Donc eux aussi, ils mettent dans la terre.
Mais si on regarde de l'autre côté, donc des pays du Sud ou d'Afrique ou d'Amérique latine, c'est quand même quelque part assez extraordinaire que des gouvernements puissent accepter de renoncer quelque part à une sorte de souveraineté, à un contrôle, une maîtrise des terres à cette échelle-là. d'abord, mais ensuite, jusqu'à quel point les populations commencent à être au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Oui, enfin, il y a deux questions. La position du gouvernement, d'abord, ça c'est sur la surface, leur explication, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont avoir accès au transfert de technologies, peut-être bon, des flux financiers, ils appellent ça le IED, l'investissement étranger direct, c'est-à-dire faire venir des capitaux, sans regarder ce qu'ils ont chez eux, hein, c'est, parce que c'est une vision, nous on a du mal à comprendre, parce qu'on ne partage pas du tout cette vision-là. Mais ils sont très tournés vers l'extérieur, d'ailleurs il faut bien reconnaître que c'est les bailleurs de fonds et la Banque mondiale qui leur ont appris de regarder les choses comme ça, et donc ils ont une définition du développement, entre guillemets, qui est très tournée vers l'extérieur, vers le marché mondial, vers la technologie comme quelque chose qui amène au progrès d'une façon linéaire, c'est bizarre. Donc oui, ils voient donc dans les achats des terres et les concessions et les locations une manière d'avoir accès aux technologies externes, les tracteurs, les engrais, les OGM, etc., qui va peut-être apporter un certain bien au pays. Mais bon, aussi les investisseurs parlent d'emploi. Ça se matérialise presque jamais. Quand il y a des emplois, c'est un salaire vraiment bas, et c'est des emplois saisonniers. Et on parle beaucoup, ils disent toujours, on va vous apporter de l'emploi, et ils ne parlent jamais des gens qui vont perdre leur emploi et perdre leurs moyens de survie. C'est vraiment un déséquilibre total. Mais il y a des cas extrêmes aussi, comme l'Inde ou l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, qui est un pays, on sait, en termes de richesse, c'est un pays pauvre. Il y a 8 ou 10 millions d'Éthiopiens qui dépendent toujours de l'aide alimentaire extérieure. Pourtant, le gouvernement de Meles Zenawi, il a une vision. Ils disent carrément, parce qu'on l'a sur des films, ils disent qu'aujourd'hui, 83% de la population de l'Éthiopie, c'est des petits paysans. On veut arriver à une situation où c'est 10 à 20%. Alors, avec cette vision-là, que je dis, nous, on ne comprend pas ça et on ne partage pas du tout cette vision. Bien sûr, bon, ils font venir des Indiens, et enfin, ils acceptent, hein, les Indiens. Et c'est surtout des Indiens qui investissent en Éthiopie pour faire tourner les fermes, pour pousser des roses, par exemple, pour vendre dans les supermarchés en France, sur les grandes surfaces, pour faire du sucre, pour faire du riz, pour faire tout ça pour le marché mondial, beaucoup pour le marché européen, sur les termes d'échange avec des accords de libre-échange qui existent entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Donc les Indiens en profitent pour vendre à de bons prix ici en Europe, mais c'est les paysans et les peuples indigènes de l'Éthiopie qui sont complètement écartés, et leurs droits et leur... tout est complètement bafoué. Donc c'est vraiment dur. Donc pour venir à la question des populations, eux, comme je disais tout à l'heure, l'information circule mal. On a du mal à avoir des informations. Le gouvernement éthiopien ne permet pas à des gens de critiquer cette politique à l'intérieur du pays. Il y a des lois contre cela en Éthiopie. C'est dur. Mais pour beaucoup de paysans, ils rencontrent à un certain moment des bulldozers carrément qui sont dans les villages. Donc là, il y a tout un travail qui se fait actuellement à travers des alliances, par exemple, avec Via Campesina, qui est un grand réseau international pour former les gens, essayer de mieux comprendre leurs droits, comment contrecarrer tout cela. C'est tout un mouvement qui se crée actuellement, où on essaie de tisser les liens entre différentes personnes qui veulent arrêter ça d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs niveaux où on peut intervenir.
Alors ici, on est quand même dans un forum sur l'eau plutôt que la terre, même si évidemment c'est fortement lié. Alors vous avez, tu as participé à un atelier où je crois qu'on a parlé d'accaparement des terres, mais en liaison avec les questions d'eau.
Oui, on se rend compte que, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent des accaparements de terres, et dans le contexte des luttes depuis des décennies pour la réforme agraire dans beaucoup de pays. Mais derrière chaque accaparement de terres, il y a un accaparement de l'eau qui se joue aussi. Et là, on a encore moins d'informations. Donc, notre propos pour venir ici, c'était bien sûr de rendre les gens plus sensibles à cet aspect-là, plus caché de l'eau, parce que prendre de terre pour faire pousser de la canne à sucre, du coton ou du mil ou du riz, bien sûr, il va y avoir de l'eau qui va venir quelque part. Et ça veut dire ou bien puiser dans les terres et détruire les nappes phréatiques très tôt, ou bien construire des grands barrages, comme se fait par exemple en Éthiopie et ailleurs, ou bien pomper les rivières et les fleuves. Et ça se voit, par exemple, en Afrique, si vous regardez le Nil ou la vallée du Niger ou la fleuve du Sénégal, les accaparements de terres ont eu lieu là. Parce que les investisseurs étrangers, ils sont pas stupides, ils prennent pas le désert, ils prennent des terres fertiles, près des sources d'eau, plus ou moins, parce qu'ils sont prêts à intervenir et construire des infrastructures, ça c'est certain. Mais ils cherchent la fertilité de la terre et des sources d'eau. Et peu à peu, bon, on peut le voir sur la carte, parce que ça se calque complètement, mais on a, et ce n'est pas clair parce que ce n'est pas écrit souvent dans les contrats de location et de concession des terres, d'où viendra l'eau, qui va avoir quel droit, qui paye quoi. Donc ça c'est, bon, on essaie de rendre les gens plus sensibles à ça pour qu'ensemble on pose la question et on apprenne plus pour voir de quoi il s'agit, hein, parce que c'est une pression de plus sur l'eau actuellement.
Et je pense que derrière tout ça aussi il doit y avoir une question, notamment par exemple pour l'Afrique, où on dit que ça sera la deuxième révolution verte avec les nouvelles variétés adaptées pour une autre agriculture qui doit nourrir mieux le monde. Est-ce que vous continuez aussi, par rapport à toute cette problématique des semences, à suivre ce dossier ou...
Oui, tout à fait. La logique est derrière les accaparements de terres et ces accaparements d'eau agricole. C'est pour faire une agriculture industrielle, une agriculture que, selon ces avocats, va nourrir le monde. Et on sait que ce n'est pas vrai parce que c'est cet agriculteur-là qui a créé la crise alimentaire dans laquelle on est actuellement. Et c'est contre cela qu'on essaie d'appuyer les mouvements pour la souveraineté alimentaire. La gestion paysanne des semences fait partie intégrale de la souveraineté alimentaire. Et c'est vraiment, en Afrique, on le voit très clairement, le clivage et le conflit qui se joue tous les jours entre les semences paysannes et tout ce monde, tout ce que ça représente en termes de contrôle social sur la biodiversité, mais aussi une diversité culturelle, parce que les choses vont de pair. Et contre cela, cette vision industrielle, productiviste, des OGM, des produits chimiques et un contrôle très très fort et très centralisé de la part de quelques multinationales. Donc c'est une guerre. Hein? C'est une guerre qui se joue tous les jours en Afrique. On est toujours en train de soutenir les populations et les associations en Afrique pour rendre plus populaire ces luttes pour les semences locales. Parce qu'il y a aussi, vous savez, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, c'est vrai aussi en Afrique, que les gens sont formés à l'école déjà de penser à ces choses-là, en ces termes-là, que la grande technologie, c'est toujours bon, c'est l'avenir, c'est la modernité, c'est le progrès. Et tout ce qui est paysan, tout ce qui est ancien, il faut laisser tomber ça. Donc ça, il y a tout un changement de mentalité qui se fait et qui doit se faire. Et ça fait partie de cela. Et ce n'est pas une question de se dire pour tout ce qui est ancien et traditionnel, c'est bon en tant que soi. Par exemple, en termes de la terre, il y a beaucoup de systèmes traditionnels en Afrique où la femme n'a pas accès à la terre. Et ça, ce n'est pas acceptable non plus. Hein? Donc il faut changer ça. La tradition, c'est quelque chose qui évolue, qui est vivant. Et c'est dans cette optique-là qu'on essaie de donner plus de place et plus de pouvoir à une agriculture paysanne qui évolue aussi. Hein.
Je voudrais dire que depuis un moment, il y a un travail de soin qui se fait avec plusieurs mouvements sur le Mali, dont la CNOP, Via Campesina. Il y a une autre association, c'est le CAD Mali, l'Union, qui sont des groupes de lutte sur les accaparements de terre. Et nous sommes en train de faire de la cohésion sociale sur le terrain pour éviter que les gens se divisent par la corruption, etc. Et je voulais dire quelque chose d'important, c'est qu'on vient de déposer plainte contre les deux investisseurs, Modibo Keïta et Sozumar, avec derrière à viser l'État. Ça a été déposé le 23 février. Et que nous sommes en train aussi d'avoir un projet de faire un espace collectif juridique pour que quand les paysans et les paysannes sont confrontés à un bulldozer ou à des investisseurs dans leur zone, puisse appeler gratuitement un endroit où il y aurait du conseil juridique. Donc je lance un appel, on a besoin de fonds pour ça. On a mis 6 mois pour lancer la plainte parce qu'il nous manquait 1500 euros pour payer les avocats. Ne serait-ce que d'aller sur le terrain pour aller voir les gens, on n'a pas l'argent parce que malheureusement tout marche par programme. Et que quand on est en dehors des programmes, il n'y a pas de moyens financiers pour faire vraiment du syndicalisme, de la lutte de droits des paysans, de la mobilisation. Donc ça serait important qu'on puisse avoir une cagnotte pour pouvoir agir vraiment directement quand les problèmes se posent sur le terrain.
C'était Main basse sur les terres du Mali, une émission de Radio Zinzine.